C'est ça la France.
Comme souvent, vous savez, quand on est passionné par les mots, alors ce qui est mon cas, je sais pas si ça vous fait ça, mais moi, il me suffit d'entendre un mot à la consonance un peu inhabituelle, au sens un peu curieux, pour me poser la question de son étymologie, comprendre d'où il vient. Moi, ça me fait ça sans arrêt. Alors, un exemple, vendredi matin sur RTL, dans la matinale d'Yves Calvi, il était dans l'actualité, encore une fois, question de la Corse, et j'ai entendu le mot vendetta. Vendetta, ça vient d'où? Ça signifie quoi, vendetta? Voilà, c'est vrai que je me suis poser la question. Alors, comme en plus la semaine de la langue française a débuté hier, eh bien, je voulais connaître et en savoir plus sur la part des mots régionaux, sur notre langue à nous qui s'est enrichie au fil des siècles. Et pour en savoir plus ce matin, j'appelle Michel Feltin-Palas, qui est rédacteur en chef à l'Express et auteur d'un livre tout récent intitulé « Le français, une si fabuleuse histoire chez Larousse ». Bonjour Michel.
Bonjour Vincent.
Alors, ravi de vous accueillir sur RTL. Et si j'ai bien compris, vous, votre passion, ça n'est pas la langue, ce sont les langues.
Ah oui, tout à fait. Moi, je suis un amoureux des langues, et notamment de toutes les langues de France, puisque nous avons la chance en France d'avoir de multiples langues. Et le français est notre langue commune, et je m'en réjouis, mais il ne faudrait pas que le français devienne la langue unique. Donc je m'intéresse et au français, et à toutes les autres langues parlées en France.
Et à la défense, je suppose, de ces langues, on peut les appeler langues régionales, ça n'a rien de péjoratif.
Oui, hein. Non, on peut les appeler langues régionales sans problème. Oui, il faut les défendre, parce que elles sont encore parlées, elles sont encore vivantes, elles ont beaucoup de militants, beaucoup de locuteurs, mais si on y prend pas garde, elles auront toutes disparu d'ici à la fin du siècle, d'après l'UNESCO. Mmh. Et donc, il est important de les préserver. Ce sont un peu des cathédrales fragiles, de très très belles œuvres de la création humaine, de notre richesse nationale. Il faut effectivement prendre des mesures en leur faveur, parce qu'il arrive que des langues meurent.
Et d'autant plus que les mots régionaux, pour certains, sont venus enrichir notre langue, dite langue française.
Bien sûr, le français a toujours vécu au contact d'autres langues, et notamment sur le territoire national, hein. Il faut savoir que, mettons, au début du XXe siècle, juste avant la guerre de 14, on estime que la moitié de la population ne parlait pas français, la moitié de la population française.
Ah oui.
Donc, le français, depuis l'origine, a toujours vécu au contact des autres langues du territoire national. Et il y a eu des échanges et une partie des mots issus des langues régionales de France sont maintenant partie intégrante de la langue française.
Alors, on pourrait prendre quelques exemples, si vous voulez bien, Michel. Est-ce qu'on peut revenir sur ma vendetta, là, qui m'a...
Oui.
Parce que je me suis dit, c'est quoi, c'est italien, comme il y a quand même une proximité, comme...
Alors, presque, ça ne vient pas de l'italien, ça vient du corse. Le corse est une autre langue latine, c'est-à-dire une évolution du latin particulière à la Corse.
Oui.
Et donc, c'est un mot que le corse a appris au latin vindicta, qui voulait dire revendication, et puis le mot a évolué, après il a voulu dire vengeance.
Et, oui.
Et donc les Corses l'ont attrapé, l'ont corsisé en appelant vendetta, et plus tard, après que la Corse est entrée dans le giron français, le français l'a récupéré, d'abord sous la forme vendette, on le trouve dans Mérimée, l'écrivain du 19e siècle, qui parlait de vendette, puis c'est devenu vindetta, et puis aujourd'hui c'est vendetta, et c'est un mot typiquement corse.
Ah oui, c'est vraiment passionnant de se dire qu'on peut suivre l'évolution d'un mot jusqu'à sa signification actuelle.
Oui, alors ce sont des... Moi, je ne suis que journaliste, hein, donc je ne fais que vous répéter ce que disent les linguistes qui travaillent. Et moi, en tant que journaliste, je suis un passeur. C'est-à-dire, je vais voir les gens qui savent pour le transmettre aux lecteurs ou aux éditeurs.
Et c'est pour ça que nous nous entendons bien. Nous essayons de passer les uns et les autres, chacun à sa façon, en fonction de son média. Dites-moi, est-ce qu'on pourrait faire un petit tour en Alsace, si vous voulez bien? Et ce mot choucroute, qui est révélateur de tellement de choses qui nous font plaisir quand on la mange, il y a quelque chose autour de ce mot?
Oui, alors là, c'est une erreur. C'est une déformation. Choucroute, on peut avoir l'impression que c'est du chou avec une croûte. Alors, tous les gens qui ont mangé une choucroute savent qu'il n'y a pas de croûte. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit choucroute? Eh bien, c'est par erreur, donc. Le mot initial, alors je suis désolé, je ne suis pas germanophone, donc je vais peut-être mal le prononcer, c'est sourd, croûte, en deux mots. Sourd, ça veut dire acide,
oui.
Et croûte, ça ne veut pas dire croûte, ça veut dire chou. Une choucroute, ça n'est pas du chou avec une croûte, c'est un chou acide.
Ah, voilà.
Et les Français, en entendant choucroute, ont déformé, on appelait ça choucroute.
J'adore ce genre de choses, j'adore savoir d'où viennent nos mots. Et puis alors, écoutez Michel, il y en a un que nous utilisons tout au long de notre vie, dans toutes les circonstances, c'est ce fameux mot amour. Amour,
ah, oui.
C'est aussi simple qu'on le prononce ou il a eu une histoire ce mot?
Alors, il a eu une histoire, c'est assez merveilleux. Sans être un grand latiniste, en fait, tous les mots qui en latin se terminaient par « or », en français, donnent « heure ». Je prends un exemple, « flore »,
fleur.
Ça a donné notre « fleur ».
Voilà.
Le mot latin, c'était amor, et ça aurait dû donner en français ameur. Et d'ailleurs, ça a existé. Au 12e, 13e siècle, si vous aviez votre dulciné, vous lui disiez mon ameur. Voilà.
Mais... oh, ça sonne moins bien quand même.
Oui, vous voyez, comme toi, c'est l'habitude, hein, parce que si on était comme ça, on serait habitué.
Ben oui.
Mais qu'est-ce qui s'est passé à la fin du Moyen-Âge? Il y a une civilisation qui domine toute l'Europe littéraire, et c'est la civilisation de la langue d'oc. Et notamment, il y a les troubadours, ces poètes, ces écrivains, qui chantent précisément ce qu'on appelle l'amour courtois. Ils ont une vision de l'amour qui est plus romantique que n'étaient un peu les soudards du nord de la Loire, si vous voulez. Et du coup, ces poètes qui dominent l'Europe littéraire, que tout le monde admire, ils sont admirés également à la cour de France, du roi de France, qui est un peu dominé à cette époque-là.
Ouais.
Et du coup, le mot « amour », qui est vanté par les troubadours, va être adopté par le français. Et le pauvre « ameur » va disparaître. Il va être remplacé par le mot « amour » qui nous vient de la langue d'oc.
Décidément, c'est vraiment passionnant. On pourrait en parler des heures. Alors, j'ai envie évidemment d'adresser plutôt nos auditeurs vers la lecture de votre ouvrage « Le français, une si fabuleuse histoire ». C'est chez Larousse, parce que j'imagine que vous parlez de ce genre de choses dans ce livre.
Alors, je parle de ça, et si je peux me permettre, là, c'est gratuit. Je fais une lettre d'information toutes les semaines qui s'appelle « Sur le bout des langues ». Et là, je parle et du français et des langues régionales, mais je parle effectivement également de toute l'histoire de le français et de son rapport avec les langues régionales dans le livre que vous avez cité.
Merci beaucoup Michel de votre passage sur RTL. À très bientôt, j'espère. Merci, au revoir.
Au revoir.